Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Saviez-vous que seulement 29% des effectifs du numérique en France étaient des femmes ? Ada Tech School, que j'ai le plaisir d'accueillir comme sponsor de cet épisode, s'est engagée à changer cette réalité. Inspirée par Ada Lovelace, qui est la pionnière de la programmation informatique, cette école féministe et inclusive offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance pour devenir développeur ou développeuse, sans prérequis techniques ni académiques. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur vraiment porteur, où votre contribution peut façonner l'avenir, Ada Tech School vous attend. L'école est à Paris, mais aussi à Lyon et à Nantes, et il y a 3 rentrées par an. Et la prochaine rentrée, les amis, est le 27 mai 2024. Il reste encore quelques places, alors pour candidater, rendez-vous vite dès maintenant sur le site adatechschool.fr.
Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Aujourd'hui, Claire-Marie Dikanska accueille une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
Si vous avez déjà eu le projet d'avoir un enfant, et à moins de faire partie des rares chanceux qui y arrivent en quelques mois, vous savez que ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. En France, environ un couple sur quatre ne parvient pas à concevoir naturellement après 12 mois d'essai ou plus. Ce fléau de santé publique, notre invité du jour le combat sur son compte Instagram Émancipé, en donnant aux couples et aux femmes les clés concrètes pour concevoir. Pour cette naturopathe, le sujet a trop longtemps été laissé dans les seules mains de la nature ou de la gynécologie. Au fil de ses réseaux sociaux, l'autrice du manuel pour une fertilité émancipée, publié chez Hachette, nous invite à nous réapproprier notre corps par l'observation de nos cycles et la connaissance des mécanismes de la procréation. Elle débusque les mythes, révèle les astuces qui marchent et nous accompagne avec bienveillance sur le chemin de la parentalité. Bonjour Lorraine Sindicic et bienvenue dans Graines de Métamorphose.
Bonjour Claire-Marie, je suis hyper émue de ta présentation. Merci. Elle est très belle.
Merci. Est-ce que tu peux me dire pourquoi de plus en plus de femmes ont du mal à tomber enceinte ?
Il y a plein de raisons parce que c'est vraiment multifactoriel l'infertilité. Je pense qu'il y a un problème assez récent qui est celui des perturbateurs endocriniens dont on entend de plus en plus parler. Notamment là, ces derniers jours, il y a eu des études nouvelles qui impacte la fertilité des femmes et des hommes. Donc clairement, c'est un vrai sujet en ce moment, mais c'est loin d'être le seul. La fertilité, malheureusement, diminue. Les femmes, peut-être, se connaissent plus, se connaissent pas. Je sais pas si elles se sont déjà beaucoup connues, mais en tout cas, notre génération, on est très déconnectés de nos corps parce qu'on a très souvent commencé la pilule très jeune. On l'arrête juste avant de commencer les essais et on redécouvre, en fait, un corps qu'on connaît pas, un cycle qu'on n'a jamais... avec lequel on n'a jamais vraiment cohabité. Donc il y a ça, il y a plein de choses liées à l'hygiène de vie aussi qui font que la fertilité peut être altérée. Et du coup, c'est vrai que moi, mon credo, c'est ce que tu as dit un peu en introduction, c'est de redonner des clés à la fois pour comprendre et se réapproprier ce corps et puis aussi savoir sur quoi on peut agir pour améliorer sa fertilité. Parce que moi, ce qui m'attriste un peu, c'est qu'on regarde la baisse de la fertilité un peu comme un fléau passif, quoi. Enfin passivement, alors qu'en réalité, qui dit baisse dit, on peut faire en sorte de pas la faire remonter un peu, tu vois, et individuellement, d'agir là-dessus et d'essayer d'optimiser son ovulation, la qualité de son sperme, etc. Donc voilà, je pense que c'est multifactoriel et que chacun doit essayer d'identifier quelles sont ses causes à soi, parce que ta cause à toi, c'est pas la mienne, c'est pas celle de d'autres personnes autour de nous, et il faut juste essayer de la trouver.
Tu parles d'hygiène de vie, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire
de manger, de boire quand on veut tomber enceinte?
C'est une question compliquée parce qu'en fait, si on dit vraiment les choses parfaites, on devient tous complètement fous parce qu'il y a un moment où il faut aussi continuer de vivre. Et parfois, un projet bébé, il met du temps à arriver. Et si on rentre dans un rythme monacal à faire plus rien du tout, on devient fou. Or, la fertilité, c'est quand même un phénomène aussi qui est très lié. L'ovulation, ça démarre dans le cerveau. Donc, il faut se sentir bien dans sa tête pour bien ovuler. Donc, moi, j'ai jamais de discours très, radical. Après, il y a énormément d'études sur l'impact de l'alcool, évidemment, des études sur l'impact du tabac, de la drogue, notamment chez les hommes. Moi, je milite beaucoup pour ça parce qu'il y a plein de femmes qui vivent une infertilité ou qui vivent des fausses couches qui sont liées à une mauvaise hygiène de vie du côté masculin et notamment à des pétards ou quoi, qui font qu'on va quand même tomber enceinte, mais les spermatozoïdes seront de telle mauvaise qualité que l'embryon ne se développera pas. Donc ça, c'est plein de trucs aussi. On pense parfois qu'aux femmes, mais il y a les hommes aussi. Il y a évidemment toute la malbouffe qui est très compliquée aujourd'hui. Mais en fait, je pense que plutôt que de pointer du doigt ce qu'il ne faut pas faire, moi, j'aime bien essayer de dire ce qu'on peut faire pour améliorer. Et parce que de fait, on va se placer dans un schéma vertueux. Et si tu te mets à manger, par exemple, plein d'oméga-3, parce que les hormones féminines, elles sont issues du cholestérol, donc il faut du gras, il faut du bon gras pour bien ovuler, et du coup, de fait, tu vas moins manger peut-être de la malbouffe et rééquilibrer les choses plus en apportant plutôt qu'en retirant. Mais les trucs à retirer, on les connaît tous en réalité, c'est l'alcool, le tabac, la drogue, la malbouffe, les produits transformés, le café quand c'est en excès, voilà.
Et tu parles d'oméga-3, donc quels autres aliments tu pourrais mettre en avant
Les grands amis de la fertilité, en fait, si tu veux, tu as l'aspect de l'assiette, tout ce que tu peux amener dans ton assiette. Donc, il y a effectivement les oméga-3, c'est un peu la base, puisque c'est la structure des hormones ovariennes et des hormones androgènes aussi masculines. La testo, les œstrogènes, la progestérone sont issus du gras. Donc, ça, c'est le premier truc. Les protéines qui sont hyper importantes aussi pour la structure de nos cellules et notamment des gamètes. Donc, ça, c'est vraiment la macronutrition, l'assiette. Et puis après, dans la micronutrition, il y a plein aussi de vitamines et minéraux qui sont propices à la fertilité. Pour les hommes, c'est le zinc, par exemple, le best friend forever, qui est en fait qui permet d'alimenter la chaudière qui fabrique les spermatozoïdes. Pour les femmes, il y a le zinc aussi, il y a la vitamine B9, il y a la vitamine D, il y a le sélénium. Enfin, en général, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les vitamines prénatales, tu vois, qui rassemblent tout ce dont une femme a besoin en préconception et qui sont très importants de prendre en amont. Alors, pas forcément toujours dans des multivitamines, on peut trouver des choses dans son assiette en faisant un effort pour aller chercher telle vitamine et tel minéraux dans les aliments. Mais c'est pas toujours évident parce que y a des choses qu'on trouve pas dans une quantité suffisante, ou alors on va pas se mettre à manger que des épinards matin, midi et soir pour avoir sa dose de B9, tu vois. Donc faut aussi être raisonnable et se dire qu'on fait le max dans l'assiette, et puis après on peut aller chercher des micronutriments dans des compléments alimentaires bien faits qui sont bien ciblés, et ça peut aussi beaucoup aider.
Au-delà de l'alimentation, la connaissance de notre cycle, c'est clé pour la fertilité. Tu parles beaucoup de glaire cervicale sur ton compte Instagram. Comment est-ce qu'elle peut nous aider à identifier notre période d'ovulation ?
Ouais, j'en parle vachement parce que c'est très sous-coté, la glaire cervicale. Je vois une tête masculine. C'est toujours ça, et puis tu vas voir qu'après, ça va te passionner. La glaire cervicale, c'est ce qu'on appelle très souvent les pertes blanches. C'est les sécrétions que les femmes observent dans leurs sous-vêtements. Elles ont l'impression souvent que c'est aléatoire, que parfois j'en ai, parfois j'en ai pas. Oh là là, j'en ai beaucoup en ce moment, ça m'agace. Et alors qu'en fait, c'est pas du tout aléatoire, c'est pas du tout sale, c'est pas du tout honteux. Ce sont des sécrétions qui sont produites en réaction au processus hormonal qui mène à l'ovulation. Et en fait, c'est quand dans les ovaires, les follicules grossissent pour permettre à l'un d'eux de prendre le dessus et de libérer un ovule, ces follicules, ils sécrètent des œstrogènes, qui est vraiment l'hormone de la première partie du cycle qui guide l'ovulation. Et ces œstrogènes, ils ont plusieurs effets sur le corps, et notamment de favoriser la sécrétion de cette glaire cervicale, et qui évolue, du coup, qui gagne en qualité plus les œstrogènes montent, donc dans les jours qui précèdent l'ovulation. Et son rôle, au-delà de nous permettre de voir du coup l'ovulation arriver, puisque quand la glaire commence à changer de texture, à devenir de plus en plus transparente, de plus en plus étirable, on la compare souvent à du blanc d'œuf cru, en fait, pourquoi elle est là, donc au-delà de nous permettre de voir ça, c'est parce qu'en fait, elle permet de maintenir les spermatozoïdes en vie dans le vagin. Parce que le vagin d'une femme, c'est une zone très acide, parce qu'elle est ouverte vers l'extérieur. Et donc, si elle n'était pas acide et que tous les agents pathogènes qui rentraient par là pouvaient survivre, on aurait des infections tous les jours. Du coup, cette acidité du vagin fait que ça tue tout ce qui rentre par là, notamment les spermatozoïdes. Donc, un spermatozoïde qui arrive dans un vagin hors période pré-ovulatoire, il meurt. Il y a une petite durée de vie de quelques secondes. Désolé, messieurs, mais c'est... ils ont fait un long trajet jusque-là, mais finalement, pour pas grand-chose. Et en fait, la glaire cervicale, elle vient dans les jours qui précèdent l'ovulation, et elle a un pH basique qui va contrer cette acidité et maintenir les spermatozoïdes en vie. Et en fait, elle peut les maintenir en vie jusqu'à 5 jours, dans les petites cryptes qui sont au niveau du col de l'utérus, donc au fond du vagin. Donc par exemple, une femme qui a un rapport un lundi, qui du coup a une belle glaire cervicale qui est déjà là, peut conserver des spermatozoïdes dans le col de son utérus pendant 5 jours. Elle va ovuler le vendredi. Et le vendredi, son col va s'ouvrir, parce que c'est ça qui se passe au moment de l'ovulation. Le col s'ouvre pour laisser passer les spermatozoïdes. Et la glaire aura, pendant ces 5 jours, nourri les spermatozoïdes et va les accompagner pour qu'ils puissent monter jusqu'à l'ovule et féconder l'ovule. Donc c'est pour ça qu'une femme, elle n'est pas fertile juste le jour de l'ovulation, mais à peu près 5 jours avant, grâce à la glaire. Et cette glaire, en fait, elle est magique à plein de titres, parce qu'elle permet à une femme de connaître son cycle et de connaître sa période fertile. Et ça, c'est quand même sacrément utile quand on veut un bébé et qu'on n'a pas envie de s'épuiser à faire l'amour tout le temps, tous les deux jours, ou voilà, comme on nous le dit souvent. Au moins, on sait que ça y est, c'est maintenant, quoi. Et puis, parce qu'elle a cette qualité... en fait, sans glaire cervicale, il n'y a pas de fécondation. Puisque, encore une fois, un spermatozoïde ne survit pas. Il y a des femmes qui vont avoir une glaire de mauvaise qualité, une glaire trop acide, une glaire absente. Et en fait, en vérifiant qu'on en sécrète bien, etc., eh ben, on peut se rendre compte que peut-être il n'y en a pas assez et travailler là-dessus, parce que c'est un fluide du corps et on peut essayer de l'optimiser. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour favoriser une belle glaire. Je sais que ce n'est pas le life goal de tout le monde, mais quand on se rend compte de son rôle, on se dit que ce n'est peut-être pas si bête de travailler dessus. Donc, ouais, très utile la glaire.
Du coup, tu dis qu'on va avoir cette consistance spéciale de la glaire 5 jours avant l'ovulation. Ça veut dire que si on observe sa glaire cervicale tous les jours, mm-hmm. on peut voir à quel moment il faut commencer à avoir des rapports, c'est ça?
C'est exactement ça. En fait, si tu veux, le cycle d'une femme, comment ça se passe? Tu as une période de saignement, c'est tes règles. Et puis après, tu vas finir de saigner. Et là, tu vas rentrer dans une période alors plus ou moins longue. Tu as des femmes qui ont des cycles courts, donc qui n'ont même pas cette petite période de latence. D'autres pour laquelle elle est plus longue. Où tu vas avoir juste quelques pertes. En fait, ça, c'est un peu ce qu'on peut appeler les pertes blanches. C'est le vagin qui se nettoie, quoi. Donc, tu vas avoir des pertes un peu sèches qui ne vont pas laisser forcément de matière, tu vois, dans les sous-vêtements quand tu t'essuies, mais qui vont faire que tu as la culotte qui n'est pas complètement clean en fin de journée. Et c'est normal. Et puis en fait, ouais, à peu près 5 jours avant l'ovulation, la glaire va commencer à évoluer, à changer en qualité. En fait, c'est un petit peu comme si tu prenais de la farine et que tu rajoutais de l'eau. Et en fait, elle se lubrifie de plus en plus. Donc au début, ça va être un peu plutôt pâteux, et puis après un peu plus crémeux, et puis après de plus en plus translucide, étirable, lubrifié, comme le fameux blanc d'œuf cru. Ça, a priori, c'est le moment de l'ovulation, quand on atteint ce pic de glaire, parce que les œstrogènes sont hyper hauts, donc ils ont vraiment lubrifié la glaire. Et après, juste après l'ovulation, les œstrogènes, ils chutent d'un coup, puisque l'ovule a été libéré. Donc, en fait, il n'y a plus personne qui en sécrète. Et là, du coup, la glaire s'assèche brusquement. Et c'est vraiment à ça qu'on repère l'ovulation, quand tu atteins ce pic de qualité qui est suivi d'un assèchement. Et en parallèle, pour les femmes qui pratiquent la symptothermie, et je sais que tu as déjà fait des épisodes là-dessus, on va prendre sa température. Et donc, en parallèle de cet assèchement, on va avoir une montée de température, puisque dans l'ovaire, le follicule qui a libéré son ovule se transforme en corps jaune. Et ce corps jaune, il sécrète de la progestérone, qui a un effet hyperthermique pour mettre le corps dans les meilleures conditions pour accueillir une grossesse, et donc dans des conditions un peu plus chaudes. Et donc, on va voir en parallèle ce pic de glaire suivi d'un assèchement et une montée de température. Et là, tu sais que tu as ovulé. Donc, du coup, quand tu sais observer ça, eh ben oui, et que t'en as, si tu adores faire l'amour tout le temps et que tu es capable pendant des mois, voire des années, d'avoir ce rythme-là quand tu es en désir de grossesse, tant mieux. Mais s'il y a un moment où, bon, c'est bien marrant, mais on aimerait bien viser juste parce que là, c'est pas évident, eh ben ouais, faut viser le moment où la glaire commence à évoluer, quand on voit cette montée en qualité arriver. Quand la glaire a un pic, c'est bien d'essayer de couvrir le moment, même si, encore une fois, comme la glaire peut maintenir les spermatozoïdes en vie plusieurs jours, si on ne fait pas l'amour le jour J, c'est pas grave. Si c'était plusieurs jours avant, bah, ça peut complètement fonctionner. Et puis encore le lendemain de l'assèchement, puisque l'ovule, en fait, il a une durée de vie de 12-18 heures à peu près. C'est-à-dire qu'on peut tomber enceinte encore ce fameux jour d'assèchement, tu vois. Puis après, c'est pas une science exacte. Donc, en fait, on peut ovuler le jour de l'assèchement. Enfin bon, c'est une fenêtre qu'on détermine, c'est pas un instant T. Mais oui, ça permet de repérer le bon moment, de viser juste, et puis après, de faire tout ce qu'on veut, comme on veut dans son couple, voilà, mais sans cet objectif de grossesse, où là, par contre, voilà, on sait qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de probabilité de grossesse puisqu'il n'y a plus d'ovules dans le corps.
Oui, sans cette pression, quoi.
Sans la pression, exactement.
D'accord.
Qui peut faire du mal à beaucoup de couples.
Bien sûr. Mmh. Et au-delà de l'aspect de cet aspect, de cette consistance, est-ce qu'il y a d'autres symptômes ? Tu parles de température, par exemple, mais est-ce qu'il y a autre chose
Alors, en fait, dans la symptothermie, qui est la méthode d'observation du cycle moderne qui est aujourd'hui est reconnue par l'OMS, notamment... quand on l'utilise comme contraception, en fait, il y a trois indicateurs. Deux indicateurs de l'avant et un indicateur de l'après. Je schématise un peu, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais donc oui, c'est la glaire cervicale et le col de l'utérus lui-même. En fait, le col de l'utérus, donc, c'est la petite zone qui est au fond du vagin, qui ressemble à un petit donut, si on la regarde vue d'en bas avec un spéculum, et qui après fait la jonction avec l'utérus. C'est elle qui produit la glaire cervicale et c'est à son niveau que... Enfin, c'est lui, pardon, le col... Et c'est à son niveau que les spermatozoïdes peuvent rester un petit moment. Et en fait, ce col, on ne le sait pas parce que c'est à l'intérieur de notre corps et en général, on ne va pas toucher cet endroit-là, mais il bouge au cours du cycle, au même rythme que la glaire cervicale parce qu'il est aussi soumis aux œstrogènes puisque c'est lui qui sécrète la glaire. Et en fait, pendant les périodes infertiles du cycle, le col, il est dur. Donc, c'est un peu comme si on touche le bout de son nez. Il est ferme comme ça. Il est fermé. Il est plutôt bas, c'est-à-dire que pour une femme qui est à l'aise avec ça et qui va insérer un doigt et palper son col, puisqu'on peut palper son col, et elle va sentir qu'il est fermé et qu'il est facilement accessible avec son doigt, il est bas dans le vagin, et il est sec. Et en fait, pendant la période pré-ovulatoire, pour pouvoir créer le passage pour les spermatozoïdes, et il va s'entrouvrir, la fameuse ouverture dont je te parlais tout à l'heure, il va se ramollir, et là ça ressemble plus à, comme je me touche, personne ne me voit, mais c'est comme quand tu touches ta lèvre, et donc c'est mou comme la lèvre de la bouche, et il est un peu entrouvert, et beaucoup plus haut, c'est-à-dire que si tu veux le toucher, parfois pour certaines femmes, il est même inaccessible, tellement il part haut dans le cycle. Donc ça, c'est une autre façon d'observer l'entrée dans la fenêtre fertile, on peut observer son col de l'utérus. Ça, c'est les choses qui ont été étudiées, qui sont fiables, et où on sait que ça permet de repérer la période fertile. Après, il y a plein d'autres symptômes selon les femmes. Certaines vont avoir les seins un peu tendus, d'autres vont avoir des douleurs d'ovulation. On appelle ça les Mittelschmerzen, ça veut dire douleur du milieu en allemand. C'est la tension en fait dans l'ovaire qui travaille, qui peut se faire ressentir. Donc, on va l'avoir d'un côté ou de l'autre selon de quel côté on ovule. Il y a plein de choses. La vulve pendant la période ovulatoire est plus douce, plus gonflée, plus sensible. Donc, pareil, il y a des femmes qui vont s'en rendre compte. La libido est plus élevée. Les cheveux sont mieux. On a en général des cheveux qui sont moins gras, plus gainé, la peau est mieux aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment la période où la nature nous a fait comme ça, la nature nous a fait pour qu'on se reproduise. Et donc, tout chez la femme est aligné pour qu'elle se sente bien, pour qu'elle se sente en confiance, pour qu'elle se sente belle. Et donc, il y a plein de choses dans son corps qui vont dans ce sens-là. Il y a même des études qui ont été menées sur l'odeur des femmes quand elles ovulent. Et en fait, on a fait des tests, a donné des t-shirts portés par la même femme à différents moments du cycle à des hommes. Et en fait, les hommes vont être plus attirés par l'odeur des femmes en train d'ovuler que le reste. Donc, tu vois, il y a plein de trucs comme ça auxquels on pense pas du tout, qui évoluent au cours du cycle et qui font que certaines femmes, alors l'odeur en général, c'est pas un symptôme qu'on étudie, mais certaines vont pouvoir repérer différents symptômes. Après, c'est pas des choses fiables parce que les douleurs au sein, elles peuvent venir d'autres choses, les douleurs au ventre, elles peuvent être parce que t'as un transit compliqué. Enfin, donc c'est pas, faut pas se baser que là-dessus, mais ça peut venir mettre plein de petites puces à l'oreille en plus dans le faisceau d'indices que le corps s'apprête à ovuler.
Quand on essaie de tomber enceinte, on nous propose tout un tas de techniques. On a les tests d'ovulation, la prise de température, les suppléments alimentaires. Ça peut constituer une charge mentale pour les femmes. Qu'est-ce que tu conseilles de privilégier ?
Ouais, c'est une énorme charge mentale. Et en plus, tu l'as très bien dit, tu as dit pour les femmes. Et c'est un peu le problème, c'est qu'un bébé, ça se fait à deux, que l'infertilité, c'est trois tiers, un tiers féminin, un tiers masculin, un tiers de couple. Et donc moi, c'est vrai que je le constate aussi, que les femmes ont tendance à porter énormément de charges, à s'autoflageller souvent pendant longtemps, à se dire que c'est forcément elles qui ont un problème, à dépenser des fortunes dans des compléments alimentaires, à aller voir des ostéos, des acupuncteurs, faire du yoga de la fertilité, faire 30 000 choses, avant même d'avoir creusé la piste masculine. Et parfois, au bout de ces mois, voire années, on se rend compte qu'en fait, y avait un spermogramme pas top et que c'est plus là qu'il faut regarder. Donc, moi, la première chose que j'ai à dire, c'est quand on commence à se dire que ça fait un petit moment qu'on essaye, que ça n'arrive pas, qu'on va mettre en place des choses, et bien on le fait des deux côtés du membre du couple, aussi bien dans la recherche des causes. Donc, quand la femme commence à faire des prises de sang, l'homme fait un spermogramme. Et je parle des couples, évidemment, hétérosexuels. Hein, mais, et quand la femme commence à mettre des choses en place dans son hygiène de vie, et ben on le fait à deux. Parce que ça, c'est hyper important. Après, moi, mon approche, c'est de commencer par dire, justement, d'apprendre à connaître son corps, parce que ça peut paraître bête, mais tellement de couples ne font pas l'amour au bon moment. Tu vois, c'est déjà le premier vrai sujet. Donc, commencer par ça, c'est déjà une première chose. Après, être à l'écoute, au-delà des signes de fertilité, des symptômes de son corps, parce qu'en fait, on perd un temps fou dans le diagnostic de certains soucis. Parce qu'on dit souvent, quand tu vas chez un gynéco et que tu dis « Ah, ça y est, j'arrête ma pilule, j'ai un projet bébé », il va vous dire « Ah bah génial, vous essayez 12 mois, 18 mois, ça dépend de l'âge de la femme, ça dépend de plein de choses, et puis vous revenez me voir ». Et si au bout de ces 12 ou 18 mois, ça n'a pas marché, souvent on médicalise, tu vois. Donc il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit je me débrouille toute seule, soit après je médicalise, voire je pars en PMA. Et alors qu'en fait, il y a plein de signaux faibles, ou moins faibles d'ailleurs, qu'il y a des choses à creuser. Et donc, moi, j'essaye de dire au couple d'être à l'écoute de ça. Une femme qui est toujours hyper fatiguée, qui a toujours froid, qui est constipée, qui a du mal à perdre du poids, machin, il faut qu'elle creuse, par exemple, la piste de la thyroïde. Il n'y a peut-être pas de problème, mais tout va quand même dans ce sens-là. Et du coup, plutôt que d'attendre 18 mois et de peut-être médicaliser sa grossesse, elle va peut-être pouvoir creuser cette piste, rétablir un déséquilibre thyroïdien et tomber enceinte, parce que la thyroïde a un impact énorme sur la fertilité. Il y a plein d'autres choses comme ça. Donc, ça, pour moi, c'est la base. Avant de payer des compléments, des choses, c'est d'essayer d'être à l'écoute de son corps et de voir ce qu'on peut optimiser des deux côtés. Après, oui, l'hygiène de vie, c'est en parallèle. C'est-à-dire qu'adopter une alimentation qui va être saine, qui va être propice à la fertilité, ça, c'est dommage de ne pas le faire, parce que sinon, on perd du temps. Prendre des compléments bien ciblés aussi. Mais faire toute une série d'examens trop tôt partir aller chercher tous les spécialistes du monde et de Navarre, c'est peut-être pas nécessaire immédiatement, quoi. D'abord, il faut s'écouter et essayer de diminuer l'errance médicale qu'on a, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui peuvent être améliorées et qu'on creuse pas, quoi, pendant ces mois d'essai.
Tu parlais des hommes et de responsabilité de leur côté aussi.
Ouais.
Comment est-ce que les hommes peuvent mettre toutes les chances de leur côté pour concevoir ?
Les hommes, si tu veux, ils n'ont pas toutes ces subtilités du cycle. Eux, c'est un peu plus trivial. Enfin, déjà, ils sont fertiles tout le temps, tous les jours. Ils produisent des spermatozoïdes en continu. Un homme, il produit 1500 spermatozoïdes par seconde. Donc, tu vois, c'est une machine qui est... Il n'y a pas cette subtilité d'ovulation, de jeux hormonaux, d'équilibre hormonal à avoir. Par contre, ce qu'ils ont, c'est qu'en fait, un homme, la spermatogénèse, qui est la durée pour créer un spermatozoïde, donc entre le moment où la cellule démarre et puis sa croissance, et puis le moment où il est un spermatozoïde mature, il y a 74 jours. Et en fait, ces 74 jours, c'est une période pendant laquelle on peut vraiment chercher à optimiser la qualité du sperme. Donc un homme qui va faire un spermogramme, qui va avoir des mauvais résultats, il se dit, j'ai 2 mois et demi, là je donne tout, je diminue, voire j'arrête l'alcool, j'arrête de fumer, j'ai une alimentation hyper saine, je prends des antioxydants, parce que c'est les hommes, il y a beaucoup de problèmes de stress oxydatif qui va affecter la qualité du sperme. Je prends du zinc, parce que le zinc, c'est le micronutriment phare de la fertilité masculine. Tu vois, ils peuvent mettre en place plein de choses. Et ce qu'ils ont, qui est un peu injuste, mais c'est comme ça, c'est que eux, sous 2 mois et demi, ils peuvent déjà avoir des résultats très bien, parce qu'en fait, ils repartent de zéro sur une toute nouvelle production. Donc, si les ouvriers de la chaîne de production sont plus performants, sont meilleurs, que tout l'environnement est meilleur, le produit fini va être meilleur aussi. Ce qui est plus subtil chez les femmes. Donc, moi, les hommes, je leur dis, franchement, puis après, ils n'ont pas la grossesse. Donc, à la rigueur, les efforts qu'ils ont faits, ils ont tout intérêt à les poursuivre. Mais au moment où la conception a eu lieu, c'est bon, ils ont fait leur part du job. Alors qu'une femme qui met en place plein de choses dans son hygiène de vie, elle se dit, après j'ai encore toute la grossesse, où je vais avoir des restrictions, et puis si j'allaite, machin, donc ça peut paraître plus long, plus compliqué. Un homme, il peut se faire un sprint, quoi, où il essaye vraiment d'améliorer la qualité de son sperme, et puis il voit ce que ça donne, mais c'est déjà... c'est un effort qui clairement... le jeu en vaut la chandelle, quoi.
Et est-ce qu'on peut, comment on pourrait impliquer les hommes dans la connaissance aussi du cycle féminin, qui est central ?
Moi, je pense que déjà, tu vois, quand la sexualité commence à pâtir un petit peu des essais, ça, c'est un truc dont on parle très peu, mais souvent le ras-le-bol Moi, j'appelle ça le burn-out sexuel. Il vient un peu des hommes. Parce que l'homme, il y a des rapports programmés, etc. Bah, je ne vais pas faire un dessin, mais il a une performance à accomplir pour que ça marche. Une femme, c'est terrible, mais si elle n'a pas envie, ça va être pas un bon moment du tout, mais il n'y a pas cette finalité. Voilà. Donc souvent, c'est les hommes qui, au bout d'un moment, on en ras-le-bol de la pression qu'on peut leur mettre sur les épaules par rapport au rapport programmé. Et donc, leur expliquer qu'en fait, il y a une petite fenêtre à respecter, qu'on peut la repérer ensemble, qu'on peut en parler et du coup, faire baisser cette pression en se disant « Ok, déjà, c'est pas 15 jours, parce que tu parlais des tests d'ovulation tout à l'heure. Le problème des tests d'ovulation, c'est que tu les fais le matin et tu regardes ton mec et tu dis « Ce soir, t'as intérêt à rentrer tôt » parce que je viens d'avoir le smiley. Et du coup, ça met une pression énorme. Moi, j'ai un copain, un de mes amis, il me disait quand le matin, sa nana lui disait ça, lui, il passait une journée horrible parce qu'il avait une pression d'enfer où il avait dit « T'as intérêt à rentrer tôt ». Donc, quand on se met à observer le cycle ensemble, à en parler ensemble, déjà la fenêtre elle est plus large, puisque c'est pas que cette journée du test d'ovulation, et c'est pas non plus tous les deux jours comme on l'entend parfois, c'est 5-6 jours où allez, on sait qu'on a cette période et on se fait baisser la pression. Donc moi je trouve que ça, c'est un truc qui permet d'impliquer l'autre, de vivre cette sexualité plus en conscience, avec moins de un rythme plus agréable pour tout le monde, et puis encore une fois, après on fait tout ce qu'on veut en dehors de la fenêtre, mais en général, les hommes, ils sont contents, en fait, qu'on leur explique ça et qu'on leur dise « Ok, on va pouvoir spotter le bon moment et puis sans pression, suivre ça ensemble. »
Tu parles de burn-out sexuel et en fait, on s'imagine bien que d'avoir des rapports sexuels, en fait, tous les deux jours, ça peut être fatigant ou avoir l'air imposé. On se sent plus dans la spontanéité du moment. Il suffit peut-être d'avoir des rapports sexuels quelques fois par mois, deux ou trois fois au final, c'est ça ?
Ouais, en fait, si tu veux, n'importe qui n'a pas été en désir de grossesse avec une grossesse qui n'arrive pas, quand tu lui dis ça, il te regarde genre ben, « c'est stupide, c'est trop bien de faire l'amour tous les deux jours ». En fait, dans la vraie vie, quand ça devient justement comme ça une contrainte, on dit « il faut, ce soir, t'es obligé », je connais personne qui m'a dit « Ah, moi, j'ai adoré c'est des 6 mois, 2 ans, 3 ans avec ce rythme-là ». Donc, ouais, c'est hyper compliqué. Et du coup, deux, trois... En fait, tu peux, oui, viser juste cette période-là. Et puis après, tu fais ce que tu veux. Sachant qu'il y a un vrai souci aussi dont on n'a pas parlé, c'est que il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'elles ovulent au jour 14, que c'est une règle absolue, et qui, du coup, donnent tout le jour 14. Et puis après... justement, font ce repos du guerrier parce que voilà, ça a été une période intense. Et alors qu'en fait, elles ovulent au jour 17, au jour 18, au jour 20. Et donc, elles loupent leur ovulation. Et donc ça, c'est dommage aussi parce que du coup, ça, tu crois que tu vises juste. Donc, tu t'évites le tous les deux jours. Mais en fait, tu n'es pas là au bon moment. Et parfois, tu peux avoir des longs mois où tu crois que tu essaies d'avoir un bébé et tu n'as jamais fait l'amour le bon jour. Donc oui, 2-3 jours, même un jour, une fois pendant la période fertile, ça suffit. Et puis, encore une fois, je le répète, le résultat, on fait ce qu'on veut. Mais oui, après, 2-3 jours, c'est encore mieux parce que tu augmentes les chances. Mais une fois 5 jours avant l'ovulation, dans l'absolu, ça peut être suffisant.
Toujours sur le sujet du sexe, est-ce que l'orgasme peut faciliter la fertilité ? Est-ce qu'il y a des positions à privilégier, à éviter ? Est-ce qu'il faut garder les jambes en l'air après un rapport ?
J'adore ces questions. Je pense que si on ne naissait que dans un orgasme, il n'y aurait pas beaucoup de monde sur Terre. D'autant plus quand ça prend du temps et que justement, c'est un peu programmé. Donc non, Dieu merci. Il y a eu des croyances comme quoi l'orgasme aiderait les spermatozoïdes à remonter, machin. Mais les spermatozoïdes, il faut se dire qu'ils arrivent à peu près à 40-45 km/h. C'est la vitesse d'un éjaculat. Et donc, si on visualise la chose, ils arrivent pile poil sur la zone, puisqu'ils sont éjaculés au fond du vagin, et c'est au fond du vagin qu'ils doivent aller dans le col de l'utérus. Donc, si tu veux, c'est oui, un orgasme, tant mieux, c'est encore mieux, mais ça ne va pas les aider à remonter, puisqu'ils arrivent au bon endroit à une vitesse telle que, clairement, s'ils doivent y aller, ils y vont. Donc, l'orgasme, c'est un mythe, ça a été prouvé que ce n'était pas vrai. Les jambes en l'air, c'est pareil, puisque pareil, en fait... Dans le sperme, il y a, selon les classifications qu'on utilise, entre 85 et 95% de spermatozoïdes qui ne sont pas viables. En fait, ils ont soit deux têtes, deux queues, pas de queue, pas de tête. Enfin, il y en a tellement que la plupart sont ce qu'on appelle atypiques. Ou ils n'avancent pas, ou voilà. Et du coup, Et dans le sperme, il y a aussi le liquide séminal, dont on ne veut pas. Enfin, c'est celui qui, juste, il sert à transporter. Donc, après un rapport, il y a des femmes qui ont peur parce qu'elles voient quelque chose s'écouler. Elles disent, mon Dieu, j'ai tout perdu. Mais heureusement, en fait, que ça s'écoule. C'est que 95%, on n'en veut pas et il faut le laisser s'écouler. Et les spermatozoïdes performants, eux, ils sont allés tout de suite, à l'instant T de l'éjaculation, se placer au bon endroit. Donc, la chandelle... pour, si tu veux, se rassurer, ou même parfois c'est rigolo. Donc pourquoi pas, c'est bien, mais en vrai, ça sert à rien. Et le nombre de grossesses que j'ai dans les femmes que j'accompagne, c'était sous la douche, debout, enfin voilà, parce que la gravité doit faire son travail pour évacuer les déchets, donc le liquide séminal et les spermatozoïdes qui sont pas viables. Et la vitesse d'éjaculation a permis de mettre les bons au bon endroit au bon moment. Donc c'est tout des trucs où il ne faut pas se mettre la pression, il n'y a pas non plus de position, il n'y a pas de truc. Enfin, la nature est bien faite et pour que les choses s'emboîtent et fassent que les protagonistes du film arrivent au bon endroit, au bon moment.
Est-ce que, on parle de toute cette injonction, de cette contrainte, l'aspect psychologique, il joue un énorme rôle dans la fertilité. Certaines personnes bienveillantes conseillent aux femmes enceintes qui ont du mal à tomber enceinte justement à lâcher prise. Qu'est-ce que tu penses de ça? En quoi ça peut être problématique?
Ouais, moi je pense que c'est la pire phrase, le lâche prise, arrête d'y penser, partez en vacances, vous verrez, ça viendra tout seul. Parce qu'en fait, c'est la chose la plus culpabilisante du monde. Et dites à quelqu'un qui est en train de monter sa boîte ou en train de faire un truc hyper obsédant dans son quotidien, de ne pas y penser, vous verrez qu'il vous dira que c'est impossible. Donc, une femme qui a envie d'un enfant, viscéralement, elle ne peut pas ne pas y penser. Et en plus, le cycle fait qu'en fait, constamment, ça revient à elle. Elle va avoir ses règles, ça va lui montrer que ça n'a pas marché, elle va ovuler. Enfin, on ne peut pas ne pas y penser parce que c'est le corps même qui envoie des messages positifs, négatifs, tout le temps. Donc, c'est juste de l'ordre de l'inhumain de ne pas y penser. C'est impossible. Après, effectivement, il y a des moments où on a un autre projet qui nous occupe plus l'esprit et ça va créer de la place et l'enfant va arriver. Et c'est génial. Mais ce n'est pas du tout une science exacte. Donc, c'est faux. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même une réalité. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que l'ovulation, ça démarre dans le cerveau. C'est un processus physiologique. Et en fait, c'est le cerveau, c'est l'hypophyse, qui est une petite glande à l'avance du cerveau, qui envoie des hormones pour stimuler les ovaires et leur permettre d'ovuler. Et quand cet axe, cette espèce d'autoroute entre le cerveau et les ovaires est encombré, voire parfois est complètement coupé parce qu'il y a un excès de stress ou il y a une sous-nutrition, enfin il y a plein de choses qui font que parfois le message arrête d'être envoyé ou est mal envoyé, et bien là, évidemment que ça a un impact sur l'ovulation et donc sur la fertilité. Donc, il faut arriver, si tu veux, à prendre le sujet de façon beaucoup plus objective. Oui, il y a un lien entre le cerveau et les ovaires. Oui, donc, il y a un lien entre le stress et la fertilité. Ça, c'est indéniable, ça a été prouvé, c'est physiologique, c'est comme ça qu'on est fichu. Par contre, il faut arriver juste à se dire, ok, très bien, je suis consciente de ça, donc qu'est-ce que je vais faire pour réussir à y penser plus positivement, à être plus actrice, à peut-être trouver des choses pour évacuer certaines sources de stress, je sais pas, du sport, de la cohérence cardiaque, de la méditation, tout ce qu'on veut pour arriver à apaiser un petit peu si on sent qu'on a un quotidien un petit peu prenant, mais ne jamais culpabiliser d'y penser. Parce que, en fait, les gens qui disent ça, ils n'ont rien compris au sujet. Clairement, ils ne sont pas passés par là, parce que c'est de l'ordre de l'impossible.
On voit aussi souvent que les hommes qui ne le vivent pas dans leur corps, ils ont peut-être aussi plus de mal à comprendre cette un peu cette obsession, ouais, entre guillemets, quoi.
Ouais. Ouais, c'est hyper dur de dialoguer sur ce sujet-là quand on est une femme, parce que c'est comme la fausse couche, c'est comme toutes ces choses-là. Tant qu'on ne l'a pas vécu dans son corps, on ne se rend pas compte de la violence que c'est. Et du coup, c'est très compliqué d'avoir des bons conseils ou les bons mots parce qu'on ne comprend pas. Moi, c'est pour ça qu'une des parties de mon travail, on a un programme comme ça pour accompagner les femmes et on les réunit. Parce qu'en fait, souvent, les bons interlocuteurs, c'est pas ceux qu'on a autour de soi. C'est pas... Moi, mon mec, je l'adore, il est formidable, mais il est nul. Enfin, tu vois, il a jamais le bon mot sur ces sujets-là. Il veut toujours trouver le positif, alors que moi, j'ai envie qu'on soit juste réaliste et pas aller, enfin, tu vois, me chercher du positif partout. Et parfois, il faut juste en parler avec des femmes qui comprennent et qui ont vécu la même chose. Donc ouais, impliquer l'homme, c'est pas toujours évident. Après, c'est une question de dialogue. Faut arriver à dire les choses, à pas les garder pour soi, à pas partir du principe que l'autre va deviner où ou qui peut de lui-même comprendre. Parfois, il faut être très clair dans ses explications, dans ses durs. Pour moi, là, je viens de vivre un échec, je ne suis pas bien, ça me rappelle, enfin, je viens de me reprendre en pleine face, je viens de voir du sang en allant aux toilettes et ça me montre qu'on a échoué, c'est très violent pour moi. Et juste mettre des mots parce que sinon, l'autre ne peut pas deviner, quoi.
Oui, c'est ça. En fait, à chaque fin de cycle, c'est toujours un peu la même désillusion. Et du coup, en fait, en amont des règles, les couples qui cherchent à concevoir vont avoir tendance à analyser tous les signes potentiels de grossesse. Mais le symptôme prémenstruel, c'est très similaire à un début de grossesse, en fait.
Parfois, oui. Ouais, c'est ça. Et puis après, quand le corps a très envie... Enfin, quand la tête a très envie de quelque chose, le corps est capable de l'exprimer. Moi, je vois plein de femmes qui ont des symptômes flagrants de début de grossesse alors qu'elles ne sont pas enceintes. Mais parce que, voilà, au bout d'un moment, tout se confond et on est tellement à l'écoute de tout qu'on va entendre des choses. Mais c'est vrai que le syndrome prémenstruel peut ressembler parfois aux symptômes de début de grossesse. On va avoir la poitrine gonflée, on peut même avoir parfois des nausées, être un peu fatiguée et ça peut prêter à confusion. Donc, faut toujours être un petit peu prudente par rapport à ça, parce que voilà, c'est encore plus. Enfin, est-ce que c'est encore plus violent? Je sais pas, mais en tout cas, parfois, ça fait un peu l'ascenseur émotionnel, quoi.
Est-ce qu'il y a des choses pour des manières de les distinguer?
Ouais, en fait, si tu veux, quelque chose que tu as l'habitude... Une femme qui a un syndrome prémenstruel, en général, c'est ballot, c'est pas rigolo, mais elle l'a tout le temps. Donc, elle va connaître ses symptômes à elle. Elle va savoir qu'elle a une particulière irritabilité, qu'elle a des petits spottings. Donc, voilà, dès que ça diffère de ça, que c'est un peu nouveau, pour le coup, ça peut mettre la puce à l'oreille. Moi, il y a plein de petits symptômes qui ne sont pas des choses qui ont été... étudiées, il n'y a pas de littérature là-dessus, mais c'est par l'expérience que je le vois beaucoup. C'est il y a beaucoup de femmes qui ont un petit spotting de nidation. Ça, si ça a été étudié. Donc, tu vois, quand tu as un tout petit spotting, une semaine à peu près après l'ovulation, moi, je sais que toutes mes grossesses, je l'ai eu. Donc, je savais que j'étais enceinte parce que, voilà, je l'avais repéré. Il y a des femmes qui ont un retour de glaire cervicale, justement, un peu crémeuse, parce que les hormones étant en train de s'activer à fond pour maintenir le bébé, on peut avoir un retour de glaire. Il y a des femmes qui vont avoir la poitrine tendue quand même assez tôt. Si tu n'as pas l'habitude d'avoir la poitrine tendue dans ton SPM, ça peut être un petit signe. Donc, voilà, c'est en fait propre à chacune, selon ce qu'on connaît habituellement de son cycle. Et ben, ce qui peut différer, voilà. Mais... ça peut apporter beaucoup de désillusions aussi, donc je suis toujours prudente quand je dis ces petites infos-là, parce que je ne veux pas créer des faux espoirs.
Oui, il faut bien se connaître, en fait.
Oui, en fait, quand on se connaît, on passe à côté de plein de faux espoirs. Et notamment, tu vois, la prise de température, une femme qui la prend, en fait, en général, la température, elle chute la veille des règles. Est-ce que c'est mieux de voir sa température chuter, du coup, de se dire « Ok, allez, ça n'a pas marché pour cette fois, machin », plutôt que de se faire prendre de court par un saignement dans la journée? Il y a deux écoles. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est un peu plus doux de voir par la température, tu vois, de se dire « Ok, je me prépare, je mets ma culotte de règles, mince, mais bon, c'est... » Voilà. Donc, quand on s'observe, en fait, il y a plein de trucs comme ça qui permettent, moi, je trouve, d'amoindrir un tout petit peu la chute de fin de cycle quand ça n'a pas marché. Et à contrario, de voir à coup sûr que ça a marché, parce que bah, tu vas avoir ta température qui se maintient haute plus de 16 jours. Ça, c'est un signe, a priori, de début de grossesse, que tu vas connaître ton corps et ce qu'on disait, que tu vas sentir que là, c'est différent et qu'a priori, il se passe un truc. Donc, dans un sens comme dans l'autre, pour moi, c'est une richesse dont on a tout à gagner, quoi.
Tu parlais de fausse couche tout à l'heure. Ouais. Souvent, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas, et pourtant, elle représente un vrai deuil pour les couples qui les vivent. Est-ce que tu as des pistes pour aider celles et ceux qui y sont confrontés?
Ouais, j'en ai à la fois plein et aucune, parce que c'est hyper personnel, mais moi, ce que je recommande souvent, c'est de surtout pas minimiser la chose. On a tendance à... Et c'est souvent les gens qui disent ça, de trouver du positif. Ah ben au moins tu sais que ça marche, ah ben c'est mieux comme ça, vaut mieux ça qu'un enfant malade, vaut mieux maintenant que plus tard. Enfin, il y a toujours une phrase un peu positive, sauf qu'il n'y a rien de positif en fait à trouver dans une fausse couche. Et donc c'est déjà accepter la chose, prendre le temps de la digérer et ne pas essayer d'y trouver une quelconque bonne nouvelle, parce que c'est pas vrai. Prendre le temps du deuil, parce que tu as dit le mot deuil et il est hyper important, c'est que c'est le deuil d'un enfant. Et ne pas hésiter à ritualiser le moment, tu vois. Quand on vit une fausse couche chez soi, par exemple, notamment avec la prise d'un médicament, c'est d'une violence inouïe parce qu'on se retrouve à entendre, à voir, sentir un petit sac partir et attirer la chasse. Et ça, je trouve que c'est très, très, très dur. On n'en parle pas assez, qu'il y a des femmes qui vivent ça, beaucoup de femmes qui vivent ça. Et en fait, il y en a plein qui, après coup, se disent « Mon Dieu, mais j'ai tiré la chasse, quoi !» Tu vois, donc, pas hésiter à ritualiser. Alors, il y en a qui vont trouver ça dégueulasse, d'autres qui vont se trouver c'est génial, mais à récupérer le petit œuf, à l'enterrer dans son jardin, à faire des trucs, tu vois, à se dire « En fait, je viens de perdre une grossesse, un enfant que j'espérais, et c'est hyper violent, et je peux pas balayer ça d'un revers de la main. » Donc, voilà, se faire accompagner, si on ressent le besoin, aller voir un psy, faire de l'acupuncture, faire de l'hypnose. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de thérapeutes qui se spécialisent aussi dans cet accompagnement du deuil périnatal, de la fausse couche, et qui, du coup, ont des outils bien meilleurs que moi. C'est pas mon talent du tout, ça, mais je sais aller les voir, ou en tout cas orienter vers eux, pour aider le cœur, la tête, et puis après, le corps, on peut faire des choses aussi pour l'accompagner avec des outils, avec des plantes, avec une alimentation adaptée aussi, pour aider l'utérus à se remettre de ce qu'il vient de vivre, aider le corps à se reminéraliser parce qu'il a potentiellement beaucoup saigné. Enfin, voilà, il y a plein de petits tips, mais surtout, ne pas minimiser, ne pas en faire tout un plat si on le vit bien aussi. Hein. Après, chacun met le curseur au bon endroit, mais ne pas se dire que c'est un non-événement parce que c'est fréquent. C'est pas vrai. À l'échelle d'un individu, c'est un cataclysme. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de femmes qui passent par là que c'est comme l'accouchement. Enfin, l'accouchement, tout le monde le vit. Mais quand tu es en train de le vivre, tu te dis, mais mon Dieu, quoi, comment tout le monde vit ça? C'est incroyable. Et c'est pas parce que tout le monde y arrive qu'à ton échelle, à toi, c'est pas le moment le plus époustouflant de ta vie. Et bien, la fausse couche, c'est pareil. C'est pas parce que c'est fréquent qu'on doit le banaliser et se dire que on est censé passer à autre chose. Voilà, et retourner bosser le lendemain et faire comme si de rien n'était, ne pas en parler. Le fait de ne pas vouloir annoncer sa grossesse avant la fin du premier trimestre, c'est en fait pour préserver les autres de la gêne de l'annonce d'une fausse couche. En fait, c'est ça. Hein, c'est que tu ne veux pas prendre le risque de devoir annoncer une fausse couche parce que peut-être que tu te protèges toi, mais il y a aussi un côté de ne pas avoir envie d'en parler avec l'autre. Donc voilà, il faut laisser de côté cette honte, laisser de côté cette banalisation et se dire que c'est hyper dur. Et il n'y a rien d'autre à dire, en fait.
En général, on dit il faut un village pour élever un enfant. Toi, tu dis il faut un village pour faire un enfant. Pourquoi ? Comment est-ce qu'on peut soutenir un couple qui a du mal à concevoir ?
Alors, il faut déjà qu'il en parle, parce qu'il y en a beaucoup qui n'en parlent pas. Et c'est pour ça aussi qu'on a l'impression qu'il y en a si peu, alors qu'en fait, il y en a 1 sur 4, tu as dit le chiffre. Parce que c'est très tabou et personne n'en parle. Donc, pas hésiter à libérer la parole. Et ouais, pour moi, il faut un village pour faire un enfant, parce qu'il y a soit tout ce qu'on peut faire en autonomie, mais déjà, faut-il encore qu'on nous l'apprenne. Donc, tu vois, ça, c'est mon job, c'est de donner l'autonomie au couple. Mais je fais un peu partie du village, du coup, d'une certaine façon. Et puis après, il y a plein de gens qui peuvent venir t'apporter leur aide. Il y en a pour qui c'est ça qui va marcher, d'autres, c'est ça. Il y en a qui vont avoir besoin d'un suivi... en hypnose, parce qu'elles vont avoir des non-dits dans leur famille qui vont faire qu'en fait ça les freine dans leur projet. Il y en a dont le corps va être complètement congestionné, qui du coup en fait vont avoir les ovaires tous serrés sur eux-mêmes, vont pas réussir à ovuler, et là c'est une ostéo qui peut les aider. Donc en fait, faut pas hésiter à aller chercher des compétences ailleurs, de gens qui sont là pour aider. Et évidemment, dans le village, il y a la médecine. Et c'est quand même une chance incroyable qu'on a aujourd'hui, tout ce que la médecine peut faire, la procréation médicalement assistée, etc. Mais pour moi, c'est pas juste moi tout seul, enfin mon couple et la médecine. Non, en fait, il y a tout le village autour de gens qui sont un peu entre les deux, qui sont complémentaires, qui sont surtout pas anti. Ça aussi, c'est mon discours. Moi, je suis pas du tout parallèle à la médecine. Moi, je suis à côté, enfin, je suis pas, comment dire, alternative, quoi. C'est à côté. En fait, c'est pas parce que tu vas aller en PMA que tu peux pas mettre plein de choses en place dans ton hygiène de vie pour améliorer les choses. C'est pas parce que tu décides de faire un enfant naturellement, en allant voir une naturo, en mettant plein de trucs en place, que tu peux pas, à un moment donné, avoir quand même besoin d'un coup de pouce médical. Enfin, voilà, faut se dire, ok, tous ces gens-là ont pour objectif que j'ai un enfant. Parce que c'est vrai, en fait, les gens qui travaillent dans ce domaine de la fertilité, c'est des gens passionnés. Et en général, tout ce que tu veux, c'est que ça marche. Donc, il y a plein de gens qui vont mettre leur énergie pour m'accompagner dans ce projet. Putain, je l'apprends, quoi. Et voilà, et on met toutes nos forces ensemble. Et puis, peut-être que c'est telle personne qui m'a apporté la clé, peut-être que c'est telle autre, peut-être que c'est la somme de tout ça. Mais il ne faut pas rester seul.
Merci beaucoup, Lorraine, pour cette invitation à nous réapproprier notre fertilité. Pour en savoir plus, je vous conseille le compte Instagram de Lorraine Sindicic, Émancipée ES, son site internet émancipée.com ou son manuel pour une fertilité émancipée aux éditions Hachette. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « Graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, retrouvez Anne et ses invités avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Alors les amis, avez-vous jamais pris un moment pour réfléchir à votre chemin de métamorphose? Pour vous aider, nous avons créé un test exclusif et gratuit qui a déjà séduit plus de 25 000 personnes, la roue métamorphose. En 39 questions, explorez les piliers essentiels de votre vie, amour, spiritualité, famille, abondance, psychologie, santé et bien-être, pour n'en nommer que quelques-uns. En moins de 10 minutes, engagez-vous dans ce voyage introspectif et recevez à l'issue un rapport détaillé sur votre propre métamorphose, accompagné d'une sélection personnalisée de podcasts. Pour accéder à ce test totalement gratuit, rendez-vous dès maintenant sur la page d'accueil de notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com.